exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 15 décembre, il est 17h31 et nous sommes en direct de la Cité des Congrès de Nantes où artistes, festivaliers et animateurs radio de Nantes & Jeunes célèbrent tous ensemble la 26e édition du festival Tisse et Métisse la Fête, festival qui porte les valeurs de la solidarité, du mieux vivre ensemble et de la lutte des discriminations autour de nombreux pôles thématiques tels que l'égalité hommes-femmes, thématique principale de cette année sur laquelle nous allons donc nous pencher aujourd'hui en plateau. En effet, dans une société où les femmes ne cessent de se battre et de se solidariser afin de continuer à défendre leurs droits et faire entendre leur colère, nous débattrons autour de la problématique suivante, la représentativité des femmes sur les réseaux sociaux et plus généralement leurs femmes dans la société actuelle. Donc vous écoutez donc Sarah pour Nantes & Jeunes et on est sur JetFM avec moi de brillantes animatrices. Diane, bonjour Diane.
Bonjour.
Et Elisa, bonjour Elisa.
Bonjour.
Et on a également 3 invités. Alors avec nous, un musicien, Camille Saglio, et Hervé Maigret, chorégraphe du spectacle de danse contemporaine Salam, création franco-palestinienne qui interroge l'identité et la notion des frontières et qui propose des réflexions profondes sur la paix, sur la terre également. Donc vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur vous et sur votre spectacle. Je précise, pourquoi un spectacle finalement d'hommes?
Alors, donc oui, moi je suis Hervé Maigret, j'ai fondé la compagnie il y a 20 ans. J'ai cette chance de diffuser les spectacles à la fois sur le territoire régional, national et puis international. C'est vrai que la danse déjà est un langage que j'aime partager, qui est un langage qui permet de finalement transmettre des choses qui sont communes à tous, c'est-à-dire que voilà, comme la musique, on n'a pas cette barrière de la langue et c'est vrai que j'avais envie de chercher par le langage corporel un témoignage sur l'identité et sur la paix. Et l'histoire de la compagnie a fait que je me suis embarqué il y a 2 ans sur un projet franco-palestinien avec la ville dans laquelle je suis implanté qui est Bouguenay, qui avait un partenariat avec un jumelage avec la ville d'Anapta. Et du coup, j'ai eu envie de travailler avec cette thématique de la Palestine. Et j'ai recruté Camille Saglio, qui est musicien et qui est en direct sur le plateau, et il nous en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis 4 danseurs, donc 2 danseurs palestiniens que j'ai été chercher à Ramallah, au Festival international de danse de Ramallah, 1 danseur équatorien et 1 danseur français. Et donc que des hommes. Donc effectivement, pourquoi que des hommes pour parler de paix? Eh bien, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, qui a été travailler avec toute l'équipe. Pourquoi que des hommes, c'était justement parce que cette histoire de paix, cette histoire de territoire, de pouvoir, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est masculin. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir cette énergie masculine pour travailler cette paix. Et évidemment, pour arriver à cette paix, il fallait combattre et avoir en lien ces énergies d'hommes qui sont toujours sur finalement posséder l'autre, avoir toujours plus de terrain. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très masculin. Et la notion de féminité était pour moi apportée par un élément scénographique dans la pièce, et qui est tout simplement la terre. la terre comme transfert de fécondité, comme transfert de culture. Et quand on reprend un peu l'histoire de la Palestine, c'est vrai qu'on s'aperçoit que cette terre elle est travaillée, elle est forte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer. On voit bien que une des choses qui a été faite par l'envahisseur, ça a été de déraciner les oliviers, ça a été d'arracher les choses, donc c'est très symbolique. Et donc j'ai voulu justement travailler cette notion de terre avec cette notion de féminité présente.
Gaïa, déesse de la terre. Hein, donc c'est vrai que la terre, c'est quelque chose de féminin. C'est intéressant que vous apportiez la féminité à travers votre spectacle autrement qu'en mettant en scène des femmes. Peut-être que Camille aussi, tu peux nous dire... Peux-nous dire un petit mot sur ça et sur comment t'appréhendes ce milieu masculin ?
Moi, je suis la part féminine du spectacle, puisque j'ai un prénom de fille. Je me prénomme Camille. Mais je pense que j'ai été recruté pour d'autres choses que ça. Moi, je suis donc musicien, chanteur. Je suis instrumentiste aussi. Mais pour ce projet-là, Hervé m'avait proposé de s'imposer la contrainte d'avoir que de la voix et que du chant. Donc, j'ai répondu à l'appel. Et c'est une première expérience pour moi de faire vraiment que avec des instruments, enfin que avec ma voix comme seul instrument, et avec j'utilise un sampler qui me permet d'avoir plusieurs voix pour quand même pouvoir avoir plus de consistance, on va dire, et un bambou qui me permet d'avoir des rythmes que je vais pouvoir amener pour les danseurs pour pouvoir avoir des choses rythmique, parce qu'on ne peut pas faire un spectacle de danse avec la musique qui soit sans rythme affirmé. On peut parfois, mais je pense que sur tout un spectacle, c'est compliqué.
Merci Camille. Et avec nous aussi un troisième invité, Hugo, service civique à Tisse et Métis.
Bonjour, bonjour.
Et donc tu vas être là aussi pour nous donner ton avis sur la question des femmes.
Oui, et je tiens à préciser que c'est mon avis, ce sera mon avis personnel et pas un avis qui représente l'avis de Tisse et Métis dans son ensemble.
Je préfère. Et c'est pour ça que t'es là,
préciser.
T'inquiète pas.
Voilà.
Et donc je peux laisser maintenant la parole à Diane pour que tu ouvres la discussion.
Je te remercie. Donc de plus en plus aujourd'hui, les femmes utilisent les réseaux sociaux pour se réconcilier avec leur corps. Et donc pour vous, la condition des femmes sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elles commencent à bouger ?
J'ai pas de compte Facebook, Instagram, Snapchat, j'ai même pas de smartphone, voilà.
on connaît l'outil, on l'utilise un peu, mais c'est vrai qu'on n'est pas, dessus. C'est vrai que l'échange qui va se passer, et pour le coup, c'est pas parce que j'ai auditionné par exemple des danseurs. Évidemment, tout de suite après, c'est quoi ton réseau ? Donne-moi ton adresse. Et heureusement, voilà, on rencontre aussi des danseuses. Là, dans notre cas palestinienne, qui suivent toute la progression de ces jeunes artistes palestiniens qui dansent maintenant ici en France. Et donc ça nous permet évidemment pour nous de communiquer et de rester en lien. Là, c'est intéressant avec la Palestine. Il faut savoir que les danseurs se forment grâce aux réseaux sociaux.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Actuellement, voilà, c'est un pays qui est coupé, qui est sous occupation, en état d'apartheid, on peut le dire, et qui, du coup, les cours, l'ouverture vers le monde n'est pas simple. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un festival international qui ouvre les portes vers des compagnies. Et on s'aperçoit que quand on commence à discuter avec les jeunes artistes, les femmes et les hommes là-bas, c'est un moyen de s'informer et d'apprendre en utilisant les réseaux sociaux comme outil de formation directement pour leur métier. Donc à ce niveau-là, il y a un vrai enrichissement qui est fait.
C'est ça qui est justement très intéressant, c'est d'avoir donc des différentes personnes autour de ce plateau qui utilisent ou non les réseaux sociaux.
Les conditions, elles peuvent être un peu difficiles, un peu particulières, etc. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, comme ça peut apporter aux danseurs, ça peut également apporter aux femmes ?
Je pense tout à fait que ça apporte quelque chose de ce que j'ai pu voir effectivement et de ce qui m'a été rapporté, c'est que évidemment là dans le cas des jeunes palestiniennes, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen d'échanger et au-delà de la Palestine, pour avoir participé il n'y a pas très longtemps à un colloque justement sur la Palestine où était invitée une jeune artiste israélienne et qui justement utilisait les réseaux sociaux pour faire entendre une autre voix, une autre démarche et une démarche extrêmement engagée dans la cause féminine des jeunes israéliens. Voilà, souvent on fait l'amalgame d'un système politique entre autres sionistes. Mais il faut savoir que la jeunesse israélienne, heureusement, ne sont pas tous dans un principe et dans une politique totalitaire, et que ça reste un des moyens difficilement contrôlables, quoique par l'État, pour justement essayer de faire passer d'autres messages. Et cette Éléonore, je ne me souviens plus de son nom, mais Éléonore, je crois, du décalage, travaillait effectivement énormément sur les réseaux sociaux.
Et par rapport à ça, en fait, vous disiez que donc, c'était un outil, au final, assez libérateur de parole. Est-ce que, malgré ça, sur les réseaux sociaux, notamment par rapport aux Palestiniennes dont vous parlez, excusez-moi, est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a quand même, on pourrait dire, des clichés sexistes, en tout cas sur les réseaux sociaux, le fait qu'il n'y ait qu'une seule image de la femme, en fait, qui soit mise en avant? Est-ce que pour vous, c'est quand même quelque chose qui est présent et qui, au final, assez négatif, bien que ce soit un outil libérateur de parole?
C'est le problème de ces outils-là, c'est qu'il y a de tout et n'importe quoi. Donc effectivement, c'est l'image moi que j'en ai. C'est effectivement, ça permet de montrer des courants alternatifs, de montrer d'autres clichés. Mais évidemment, on retrouve aussi tous ces clichés. Mais là, on retrouve un petit peu tout ce qui est médiatique. C'est vrai que quand moi, j'ai voulu travailler sur cette thématique de la Palestine, depuis tout petit, on entend justement par les médias ce conflit israélo-palestinien. Et à un moment donné, voilà comment finalement on est nourri que d'images, que d'une information qui est finalement déjà traitée. On n'a qu'une vision des choses. Et c'est vrai que pour nous, c'est intéressant, artistes, d'ouvrir ce champ de vision et justement d'aller proposer un autre angle de vue, souvent d'un problème, d'un conflit, d'un en l'occurrence là sur la condition féminine. Voilà, les artistes sont là pour un petit peu changer d'angle de vue.
Complètement. Moi, je vous rejoins complètement là-dessus. Peut-être que c'est vrai que les réseaux sociaux ont un double tranchant, qui peuvent se présenter comme un outil libérateur de parole, mais ils peuvent aussi tout à fait transmettre une image négative des femmes ou encore les enfermer dans des stéréotypes clichés et passéistes. Mais donc c'est vrai que l'art, ça peut être une alternative, c'est un autre moyen de faire passer ces idées-là et moins d'avoir cette pression médiatique finalement. Et peut-être que toi, Hugo, tu peux nous parler un peu de ton ressenti, puisque tu utilises un peu les réseaux sociaux peut-être. Et comment tu trouves ? Est-ce que tu trouves qu'Internet, c'est un outil libérateur pour les femmes ?
Disons que je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver quant à la place de la femme sur les réseaux sociaux, parce que c'est très bien que... Il y a un moyen de ne plus véhiculer les clichés qu'on nous nourrit dans la pub, dans les films, avec les photos retouchées avec Photoshop, etc. Des femmes qui n'existent pas dans la vraie vie. Enfin, si, elles existent dans la vraie vie, mais elles ne sont pas comme elles sont sur la photo. Mais on a vu récemment sur Twitter, il y a 4-5 mois, un matraquage de photos dénudées, tout public, que tout le monde pouvait voir sur Twitter. C'est-à-dire que moi, je descendais mon fil d'actualité sur Twitter. Tous les trois tweets, j'avais une femme en lingerie. C'est assez énervant, quoi. C'est-à-dire que, d'accord, mais il y a un juste milieu à trouver, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est-à-dire que, personnellement, je ne me mettrais pas à poil sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas envie qu'on m'impose de te voir à poil sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai envie de dire. Ne plus véhiculer les clichés, etc. Mais aller jusqu'au bout et se montrer soi sur les réseaux sociaux avec des images personnelles, parce que la nudité, c'est personnel, et la montrer comme ça à la face du monde, c'est un choix que j'ai du mal à comprendre personnellement. Et surtout quand on me l'impose à ma propre vie.
C'est cette espèce de double tranchant au final dont on évoquait tout à l'heure.
C'est le double tranchant dont on parlait, exactement.
Donc, c'est vrai qu'on sait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées de femmes, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Donc il y a une certaine importance au niveau du cyberharcèlement, excusez-moi, du Photoshop, des clichés stéréotypes en tout genre. Mais du coup, il y a aussi le poids des arguments d'influenceuses, comme par exemple les youtubeuses, les bloqueuses, les actrices, etc., qui osent décomplexer en parlant de leur physique, en parlant de leur complexe. Et est-ce que vous pensez, vous en tant qu'homme, que justement l'image qui est véhiculée par les réseaux sociaux est une image plutôt réelle de la femme, ou plutôt, comme l'expliquait justement Hugo tout à l'heure, une image montée de toutes pièces?
Et pas forcément sur les réseaux sociaux, mais en général aussi, parce qu'on veut parler de publicité. Il y avait une publicité pour les Galeries Lafayette qui faisait un peu polémique. où on voyait une femme en lingerie, encore une fois. Est-ce que finalement, on ne se sert pas aussi de l'image de la femme comme un outil commercial, finalement, qui fait avoir des clics ou qui fait vendre, etc. Est-ce que voilà, vous trouvez que c'est encore présent et que c'est encore problématique, cette image-là de la femme ?
Donc, je pense qu'il y a une part de responsabilité là, de ce que chacun a envie d'y mettre. Et que, voilà, je pense qu'à un moment, il faut assumer ce qu'on fait. Et s'il y a des choses débiles dessus, c'est parce qu'il y a des gens débiles qui les mettent. Et après, il y a, tu parlais des publicités tout à l'heure qui sont dégradantes et tout ça. Elles y sont parce qu'elles sont relayées et parce qu'elles sont rebalancées par les personnes qui les voient et qui cliquent dessus. Et, mais du coup, là, c'est encore un autre aspect. C'est qu'est-ce qu'on a envie de... À quoi on a envie de donner de l'importance et où on a envie de pointer l'éclairage. Et je pense que là-dessus, on a une certaine part de liberté à sa petite échelle de ce sur quoi on a envie de mettre l'éclairage et les questions qu'on a envie de soulever.
Et vous parliez en fait donc d'importance, parce que on peut penser en fait que, à mon avis en tout cas, par rapport aux réseaux sociaux, donc on peut avoir, ou même de la publicité en général ou de la télévision, cette espèce en fait d'image, donc au final qu'on peut qualifier de malsaine, la position de la femme en tant que telle, donc pas mal d'aspects négatifs. Et en fait, est-ce que pour vous, on peut dire qu'en fait, à travers votre spectacle, au final, la femme a une place, on peut le dire, je pense, symbolique, ce qui est en fait assez sain. Est-ce qu'on peut dire au final que vous êtes engagé en...
Par rapport à la condition féminine, non. C'est pas un spectacle qui parle de ça, qu'il y ait une image symbolique justement de la féminité. Et c'est justement par rapport à tout ce qui s'est dit avant, je pense que justement cette notion d'image et de responsabilité, elle est importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas dans le travail, et ce que Camille disait tout à l'heure, c'est la notion du sensible. C'est-à-dire que... qu'est-ce qu'on fait de ces réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on fait des images que nous véhiculons ? Derrière ça, oui, sur scène, par exemple, nous, c'est 5 gars. C'est une énergie d'homme qui vient contrecarrer finalement quelque chose dans l'histoire du monde. Ça serait un peu schématique, mais oui, c'est pas les femmes qui génèrent les guerres et qui génèrent cette notion de pouvoir territorial qui est sur justement l'énergie féminine. On va être là-dessus au niveau de la danse. Et qu'est-ce que véhicule symboliquement l'énergie féminine ? C'est-à-dire, c'est construire, c'est cultiver, c'est aller justement vers la notion de paix. C'est pas les femmes qui déclenchent les guerres. Il y en a eu, évidemment, mais concrètement, voilà, c'est vraiment masculin de vouloir posséder plus, gagner plus, conquérir le pouvoir de l'autre et écraser l'autre. C'est vraiment masculin, on peut le dire. Donc à ce niveau-là, évidemment, on va retrouver quelque chose qui est très positif sur l'énergie féminine et qui prend beaucoup de recul justement sur l'énergie masculine en essayant de montrer autre chose. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir cette énergie masculine dépasser ça. Et finalement, qu'est-ce qui crée le lien entre tous ces hommes ? C'est bien la terre, cette recherche de terre, cette recherche de paix, de faire avant tout, on peut faire la paix entre nous quand nous sommes en paix avec notre partie féminine et avec notre partie justement de construction. Quand j'ai engagé Camille, ce qui m'intéressait aussi dans sa voix, c'est qu'elle avait quelque chose d'androgyne. Finalement, c'est ça aussi le plus important, c'est d'aller chercher l'harmonie dans toute chose. Et finalement, l'être parfait, c'est l'être qui atteint l'équilibre de ses énergies entre le féminin et le masculin. Donc justement, il était le lien de ces quatre hommes par cette voix qui passe dans tous les états et qui par moments est complètement androgyne. Il amène cette féminité et pourtant, c'est un homme qui chante. Et donc pour moi, il y avait quelque chose de très très juste en lui demandant de construire la musique en direct.
Et en fait, donc vous véhiculez une image très positive de la femme qui est un peu loin de tout ça. Et moi, j'ai envie de m'en servir comme transition pour parler justement d'un phénomène qui se fait ressentir de plus en plus dans notre société, qui est finalement une peur de l'homme venant des femmes, chez les femmes, parce qu'on peut aussi parler de ces violences qui sont encore faites aux femmes. Donc déjà, il y a la violence faite par les hommes dans le monde. Comme vous dites, c'est eux qui mettent principalement les guerres et c'est eux qui font le plus souvent couler du sang. Mais au-delà de ça, il y a aussi, à notre échelle, de nombreux viols. On compte des chiffres de 2017 qui sont un peu choquants. On a 94 000 femmes majeures qui disent avoir été victimes ou de viols ou de tentatives de viols. 99% de ceux qui sont condamnés pour violences sexuelles sont des hommes. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une peur de l'homme chez les femmes en ce moment. Est-ce que vous ressentez ça, une peur de l'homme chez les femmes? Est-ce que tu as l'impression que les femmes, elles ont de plus en plus peur des hommes?
Oui, enfin, il n'y a pas de... d'autres réponses à donner, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus parce que les preuves sont là, quoi. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont peur des hommes, hein. C'est tout.
Camille, tu peux rebondir?
Ouais, j'aurais tendance peut-être à dire l'inverse justement, moi, parce que je pense que, et c'est de manière positive, je trouve, c'est que il y a depuis quelques mois, quelques temps, une libération de la parole de la part des femmes pour dénoncer les choses, affirmer les choses. Et je pense que ça, quelque part, ça relève aussi d'une moindre peur de l'homme et des conséquences de qu'est-ce qui va se passer quand je vais parler, quand je vais dire ce qui m'est arrivé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de positif parce qu'au final, ce qui fait le plus de dégâts, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. Une femme qui s'est fait violer ou qui s'est fait abuser en étant gamine et qui, ou un homme, parce que pour le coup quand on est gamin, je pense que là il n'y a pas de distinction, si on n'en parle jamais, ça fait des dégâts énormes pour la personne, puisque c'est qu'à travers la libération des choses que ça va pouvoir qu'il va avoir un processus un peu de résilience et de guérison. Donc je pense que ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Et ça peut peut-être faire écho avec les premières questions, parce que je pense que là, le développement des réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi aider à cette libération de la parole, puisqu'on a accès à une parole publique de manière plus anonyme, on va dire, même si c'est relayé au nom de quelqu'un et au nom d'un compte. Voilà, mais quand même, on peut relayer de manière publique des choses. Et alors qu'avant, ça n'existait pas, il fallait aller au commissariat. Donc c'était quelque chose qui était forcément très formel et qui pouvait être freinant et voilà, qui empêchait ça. Donc je pense que ça peut être peut-être un aspect de dire que malheureusement, ça ne règle pas le problème. Mais je pense qu'il y a, en tout cas, il y a moins peur de la parole, au-delà de la question de la peur des hommes ou pas.
Oui, j'avais pas réfléchi à la question de ce point de vue, mais c'est très juste. C'est très juste. C'est vrai que les réseaux sociaux permettent cette libération de la parole, d'autant plus qu'au commissariat qui est souvent rempli d'hommes, une femme n'est pas forcément prise au sérieux quand elle va porter plainte pour viol, pour harcèlement sexuel, on est comme ça, ça arrive, on a des chiffres là-dessus. Mais du coup, voilà, les réseaux sociaux permettent progressivement, je pense, de libérer la parole sur des comportements incivilisé. Ma réponse de base, c'était les femmes ont peur des hommes. J'avais répondu positivement à cette question parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours une peur chez certaines femmes de l'homme, que ce soit dans la rue, dans une boîte de nuit, etc. Une peur peut-être inconsciente ou peut-être consciente. Voilà, c'est tout ça.
Peut-être aussi juste rajouter que pour revenir à quelque chose de plus artistique, c'est que souvent aussi l'expression artistique va permettre quand même l'égalité homme-femme. On s'aperçoit en l'occurrence que si on prend la danse, on n'a pas ce problème-là, nous danseurs, parce que le langage corporel, eh bien, il permet d'échanger sans se poser finalement toutes ces questions, parce que le corps, on travaille avec cette image-là, et c'est vrai que peut-être si on arrive sur des fois des chocs d'images ou des choses qui sont mal intentionnées, c'est qu'il y a pas d'une démarche artistique et philosophique derrière cette image. C'est vrai que le danseur et l'artiste, eh bien, il va vraiment travailler sur une libération et du coup une honnêteté. C'est-à-dire, moi, j'aime bien dire justement quand je danse, ce qui m'intéresse avec le corps, c'est que le corps ne ment pas. Le corps raconte des histoires, raconte des vies, raconte des blessures, raconte les joies. La voix, avec la voix, on peut mentir, on peut tricher. Avec le corps, on ne peut pas tricher. Et je pense qu'avec la musique, avec plein d'arts différents, peinture, sculpture, l'expression qui passe par l'art va permettre la justesse de la transmission. Pour moi, justement, le côté pédagogique de l'art, il est important à l'école. Ça va permettre aussi de libérer et d'aller parfois travailler justement une transmission et une libération de la parole pour savoir, OK, je pense à comment je le dis, comment je le livre, et pas d'un seul coup de le balancer un peu n'importe comment, parce que des fois, même avec beaucoup d'honnêteté, ça peut être mal compris et mal interprété.
Donc, comment les femmes défendent leurs droits? Sont-elles en perpétuelle recherche d'identité? C'est ce que nous allons chercher à savoir après une courte pause musicale.
Et pour cette pause musicale, musicale. On va écouter les Brigitte et Olivia Ruiz et 36 autres musiciennes et chanteuses françaises qui reprennent l'hymne du mouvement de libération des femmes, Debout les femmes, qu'on vous propose d'écouter pendant cette pause musicale.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, comme
de retour sur le plateau donc avec l'équipe de Nantes Jeunes, donc au festival de Tissé Métis. Nous avons avec nous deux festivaliers.
Nous donc, avons changé d'invité, ouais.
C'est ça, nous avons changé d'invité. Donc bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, en fait, donc, nous avons parlé du corps au début de notre interview, nous avons parlé de la peur. Maintenant, je voudrais en fait évoquer avec vous tous les mouvements qui ont été mis en place par rapport à la libération de la parole de la femme. Donc, tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous le mouvement MeToo. Donc, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que le mouvement MeToo ? Donc, tout d'abord, je voudrais parler de son origine. Donc, en octobre dernier, l'influent américain Harvey Weinstein a été accusé par près d'une centaine de femmes d'agression et de harcèlement sexuel. À la suite de cette affaire, l'actrice Alyssa Milano a donc lancé sur les réseaux sociaux avec le mot-clic MeToo, donc un mouvement, afin que les femmes victimes de harcèlement donc, témoignent ce qu'elles ont pu vivre. Le mouvement a pris ensuite une énorme ampleur et de nombreuses personnalités comme Lady Gaga ou Monica Lewinsky, excusez-moi, ont témoigné sur les réseaux sociaux et le mouvement Balance ton peur est également apparu en France. Donc on peut au final se demander, mais les hommes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pour ça que la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous, en fait, par rapport à ces mouvements, au final, quel ressenti vous avez, en fait? Est-ce que vous seriez prêt également à vous engager?
Est-ce que vous connaissiez aussi le mouvement avant qu'on en parle?
Alors, oui, évidemment, il est très connu. Dans tous les médias, on en entend parler. Forcément, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Il y a une vraie problématique liée à l'éducation par rapport aux réseaux sociaux en général. Vous avez parlé au début, quand on vous a écouté tout à l'heure, des problématiques liées aux réseaux sociaux et de l'image de la femme un peu dégradante qu'il peut y avoir. Là, on est sur le mouvement MeToo avec quelque chose d'extrêmement positif pour moi qui libère la parole. Quelque chose qui a une vraie portée politique. Et c'est ce genre d'application, pour moi, qui est la bonne des réseaux sociaux. Alors, c'est certainement lié aussi à l'éducation, hein, par rapport aux jeunes. Comment se servir des réseaux sociaux, comment faire un instrument politique, et non un instrument d'aliénation. Donc, c'est forcément quelque chose, pour moi, de très positif. Après, la place de chacun n'est pas simple non plus. On a vu aussi qu'il y avait dans les médias une sorte de retour de bâton par rapport au mouvement MeToo, où certaines femmes ont dit mais non, moi je veux avoir le droit quelque part de me faire draguer, je veux avoir le droit quelque part que les gens et que les hommes viennent vers moi. Donc c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi manichéen que ça, et tout est dans la nuance.
Peut-être que Jules, tu veux nous dire un petit mot sur toi, ce que tu penses du mouvement MeToo?
Franchement, je pense que c'est bien aussi, hein, comme il a dit, ça libère la parole, ça libère la femme, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est quelque chose de positif, c'est un mouvement qui est bien, parce que du coup, les femmes qui avaient peut-être peur d'en parler à leurs proches ou quoi, et elles peuvent en parler sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose de très positif.
Toi, tu trouves ça positif? Moi, je voulais vous parler parce qu'on commence à connaître, comme vous le disiez, on commence à connaître les grands mouvements et les grands dispositifs. Mais il faut aussi, moi je voulais profiter de ce plateau pour parler, il était important de vous informer qu'il y a aussi des choses qui se passent à échelle locale, donc à Nantes. Et récemment, deux sœurs ont eu l'idée d'un dispositif qui s'appelle Women Walk et qui permet à des femmes qui ne se connaissent pas forcément d'entrer en contact pour rentrer ensemble le soir sur des trajets toutes seules et pour réduire finalement le sentiment d'insécurité. Alors moi je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que ce dispositif c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour une femme de rentrer le soir et que c'est une bonne idée de finalement qu'elles se retrouvent ensemble pour rentrer et se sentir moins en danger?
Dangereux peut-être pas tout le temps, mais en tout cas pas toujours très rassurant, ça c'est certain. C'est courant effectivement, même à Nantes localement, les problématiques liées sur l'île de Nantes par exemple, il y a des boîtes de nuit, il y a des restaurants, il y a des bars. On voit bien qu'il y a des problématiques lorsque les jeunes femmes rentrent chez elles. Moi, j'ai effectivement entendu parler de cette idée-là sur un journal local, et ça me paraît effectivement être une très bonne chose. Toute initiative qui ira dans ce sens-là pour rassurer, pour mettre du lien entre les gens, finalement, ce sont des bonnes initiatives, des belles initiatives. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les outils modernes, les smartphones, etc. Donc c'est une belle utilisation de la technologie et on ne peut que l'encourager.
Mais ce qui me pose problème, c'est qu'on soit obligé d'en arriver là, en fait, dans la société d'aujourd'hui, et que les femmes doivent être accompagnées d'une autre personne pour pouvoir rentrer chez elles librement. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas admissible en société, quoi. Si une femme n'est pas rassurée dans la rue en étant toute seule, c'est quelque chose qui n'est pas normal, quoi.
On peut prendre par exemple donc l'exemple d'une jeune Nantaise, pas plus tard que la semaine dernière, qui donc s'est fait violer alors qu'elle prenait son taxi. Donc c'est vrai que c'est des faits divers qui arrivent vraiment très souvent, notamment à Nantes. Donc c'est vrai que c'est assez grave, et donc il y a de nombreux autres mouvements, donc on a dit comme Balance ton porc, MeToo ou encore la Woman Walk, avec lesquels on dénonce les viols et autres abus sexuels donc faits aux femmes. Donc je vais vous demander à nouveau votre avis en tant qu'homme, pour vous, quelles sont les conséquences de ces mouvements, mais surtout est-ce qu'ils font s'améliorer les droits des femmes?
Le rapport et le pouvoir entre les hommes et les femmes, il est vieux comme le monde, donc on ne va pas le changer malheureusement du jour au lendemain. Je pense quand même qu'on est sur la bonne voie, en faisant un vrai travail d'éducation, en parlant, en libérant la parole, comme on le disait, en expliquant aux jeunes aussi, et en, en démystifiant un petit peu tout ça et en faisant en sorte que les jeunes générations voient leur position de façon un peu différente. Et ben on peut avoir bon espoir que ça évolue dans le bon sens.
Je suis d'accord, parce que si quelqu'un qui voit ça, un homme par exemple, il va peut-être changer d'avis par rapport à ça, parce qu'il aura vu quelqu'un qu'il connaît, qu'il aime bien, peut-être qu'il aura partagé le mouvement, et ça va peut-être faire changer sa mentalité en fin de compte en fait.
Vous avez tout à fait raison, et je pense que ce qu'on peut au final en fait retenir de tout ça, c'est que bien que ce soit un mouvement en fait entre guillemets des femmes, en fait les hommes se sentent au final totalement engagés dans ce mouvement et ils se sentent impliqués, et c'est quelque chose au final qui les occupe aussi en fait, ces inégalités et la mise en place de tous ces mouvements. Au final ils se sentent impliqués, engagés dans tout ce qu'ils font, donc...
Oui, bah complètement, moi aussi je te rejoins là-dessus. Et en fait ça fait du bien de voir que quand même, comme vous le disiez, on est sur la bonne voie, c'est-à-dire que les femmes et les hommes continuent ensemble de se solidariser contre ces inégalités. Je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui principalement, c'est que ça bouge et que les femmes ont maintenant des outils pour faire parler de plus en plus de leur mouvement, de leur combat, pour s'exprimer, et que de par les réseaux sociaux et de par l'évolution de la société plus généralement et de nos générations, de l'ouverture d'esprit et tout, etc., c'est quelque chose qui évolue. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie, et c'est sur ça qu'on devrait finir cette émission, en disant qu'il faut garder le sourire, mesdames, parce que tout va aller mieux pour nous.
Tout à fait, il y a une certaine libération donc de la parole des femmes. Et donc merci à vous deux d'avoir participé à ce plateau et donc donné votre avis en précisant en tant qu'homme justement sur la condition des femmes sur les réseaux sociaux.
Merci.
Merci. À vous.
Merci.
Merci.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le samedi 15 décembre 2018. On est en direct du Festival Tissé-Métis à la Cité des Congrès de Nantes. Et nous sommes à la 26e édition du Festival Tissé-Métis.
Et ce soir, nous avons la chance de recevoir avec nous ERA44. ERA44, bonsoir.
Bonsoir.
On reçoit particulièrement trois membres d'ERA44. Donc ce soir, Black Jeez, Jefferson et Kay. Et vous venez de vous produire à 18h30, donc il y a quelques minutes, en salle 300, qui est la scène des émergences.
Bah déjà, ça s'est bien passé.
Yes.
Yes. C'est bien. Comment vous avez fait pour former un groupe?
Alors, pour former ce groupe, ça a été très simple. On a un danseur qui vient de Marseille. Il est allé faire une soirée. À sa première soirée, j'étais dans la même soirée. Il a dansé, il a fait un concours, il arrive en demi-finale. Moi, je me suis dit, ah, lui, il faut que je prenne son numéro. J'ai pris son numéro et j'ai donné au manager. Il est venu. Et là, il y a mon frère qui rappe en anglais. Nous trois, on s'est retrouvés, on a commencé à traîner ensemble. Et un jour, on s'est dit... Ça n'existe pas, un groupe avec un danseur, un rappeur anglais, un rappeur français. Et si on faisait ça à Nantes? Et les gars, on a dit vas-y.
Donc vous l'avez fait juste parce que personne ne l'avait fait avant? Vous vous êtes dit, nous, on va le faire?
Pas parce que personne ne l'a fait avant. Parce que c'est déjà deux disciplines qui font partie de la culture hip-hop, la danse hip-hop et le rap. Donc personne, aucun groupe n'a osé allier ces deux disciplines-là. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas.
Et aussi... On a discuté longuement et on a vu les points de vue de chacun par rapport au futur, par rapport à notre rêve qui est la musique. Nous, on aime la musique. Du coup, on a vu que chacun de nous trois a envie d'aller loin. Donc, faut s'accrocher à ça. Et puisqu'on est ensemble, plus on est nombreux, plus on rit.
Voilà. Exactement. Et alors, vous parlez de quoi dans vos créations? De quel thème? De quel sujet?
Ben, dans les sons, dans la plupart des sons, on essaie d'envoyer un message positif vraiment à la jeunesse. On essaie de parler de détermination. Parce qu'on est des jeunes hommes, c'est vrai, on n'est pas encore millionnaires, on a tous nos galères, donc c'est de ça qu'on parle dans nos rap, nos galères de tous les jours, ce qu'on vit, nos combats, nos blessures, nos espérances, c'est un peu ça.
On veut donner des conseils, il y a des gens qui veulent accomplir leurs rêves, ils n'arrivent pas, ils se découragent, on ne les connaît pas forcément, du coup nous on fait nos sons, ils vont nous connaître sûrement, ils vont écouter, ils vont être beaucoup plus remontés, ils vont s'accrocher à leurs rêves. Et voilà, nous, on veut faire passer un message de volonté, de rage, de courage.
C'est un engagement, finalement, que vous cherchez à transmettre.
Voilà, c'est ça.
Alors, la question se pose aussi ce soir, parce qu'on a un thème tout particulier dans cette émission, qui est celui de l'engagement, qui est celui des idées, et qui est de dire qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir qui a des idées, qui s'engage, qui est prêt à les porter. Est-ce que Brahim, peut-être sur ce point, tu as une interrogation à soulever, quelque chose?
Non, j'aurais une question. Est-ce que vous vous êtes représenté par les hommes politiques ou pas?
On n'a pas compris la question.
Est-ce que vous vous sentez représenté par les hommes politiques ou pas?
Représenté?
Oui.
Non, pour l'instant, moi j'ai jamais voté personnellement. J'ai jamais voté. Mais j'aimerais savoir c'est quoi la question après par rapport à cette question en fait.
En fait, comme vous avez dit que vous êtes un groupe engagé.
Oui.
Bon, moi j'aimerais voulu entendre la question, est-ce que vous vous sentez représenté ou que les politiques sont engagés par...
Moi personnellement, je ne vais pas dire que je me sens engagé. Après, on n'est pas forcément obligé d'être engagé politiquement, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller voter ou d'aller faire ceci, cela pour faire des bonnes actions, tu vois.
Question politique, nous on veut pas prendre parti en fait. On a nos préférences, mais ça reste entre nous. On veut pas prendre parti et mettre ça en plus dans notre musique pour que des enfants écoutent et qu'ils aillent, je sais pas, raconter ça dans la rue. Du coup, nous, on garde nos avis pour nous-mêmes concernant la politique. Vraiment, on se mêle pas.
Mais ça reste finalement un engagement de en faveur de la détermination des jeunes, en faveur,
bien sûr.
En faveur de finalement des droits, etc.
Oui. En fait, on essaie vraiment de pousser la jeunesse à aller vraiment de l'avant, à se motiver.
Et surtout, le fait qu'on parle pas de politique dans nos sons, ça fait que puisqu'on veut aider les jeunes à avancer, à être courageux, on va pas mettre la politique dans nos sons. On va leur montrer que malgré tous les problèmes politiques qu'il y aura,
voilà, on peut...
ils peuvent quand même continuer à vivre, continuer à penser à autre chose. Parce que à chaque fois ils entendent à la télé, il y a eu des problèmes, il y a eu ceci, cela, faut leur faire penser à autre chose. Faut leur montrer que la vie elle continue, ça s'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'on est avec eux.
Donc vous donnez de l'espoir aux jeunes en fait, d'où vous venez en fait un peu, non?
Voilà.
Partout même.
Voilà,
et c'est pour ça que vous faites des chants comme ça, vous faites de l'afro-trap, du rap.
Oui, bien
voilà,
sûr.
Voilà, donc dans le milieu du rap un peu.
Oui.
Vous allez sortir un album peut-être, non?
On va le sortir bientôt.
Une mixtape,
un nouveau projet je pense, début de 2019. Je vais pas dire la date mais...
C'est un projet qui va bientôt sortir.
Oui, bien sûr, bien sûr.
D'accord. Brahim, peut-être?
Moi, j'aurais une question. Comment vous faites pour écrire, pour inventer des musiques? C'est quoi votre processus d'écriture?
C'est la vie de tous les jours. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est là, on peut passer une journée à faire plein de choses, et à la fin de la journée, on s'assoit, parce que chaque jour que Dieu fait, on écoute de la musique, on écoute des instrus. D'ailleurs, dédicace à nos beatmakers, D-Way, Marabou, Momo, ils font des beats pour nous. On écoute. Et on repense à tout ce qu'on a vécu. On se dit, pourquoi ne pas mettre ça dans un son? Pourquoi ne pas raconter une histoire? On se dit que tout ce qu'on a vécu, ça peut servir de leçon aux gens aussi. Surtout si nous, ça nous a appris des choses. On veut apprendre aussi les mêmes choses à tout le monde.
C'est un peu ça, c'est l'inspiration vient de la vie de tous les jours, ce qu'on vit tous les jours. Comme je disais, nos combats, nos espérances, ce qu'on vit avec les femmes et tout, les cœurs brisés, enfin. C'est vraiment un peu de tout.
Vous faites des musiques avec la vie de tous les jours en fait.
Voilà, en fait, quand ça vient de ce que tu vis en fait, tu peux pas mentir en fait. Tu ne peux qu'être vrai en fait. Tu racontes pas une autre vie en fait, c'est la tienne. Donc la vie elle peut être belle comme elle peut être mauvaise. Donc c'est ça qu'on raconte en fait.
La vie de tous les jours, le présent, le passé, le futur.
Alors culturellement ça vient d'où? C'est quoi? Parce que vous faites de la fraude. Alors c'est un mélange, c'est de la fraude rap, c'est du rap, c'est plein de trucs.
C'est vraiment un très gros mélange. Moi, j'aimerais dire qu'on est des musiciens, on est des artistes, parce que culturellement, non, on vient d'Afrique en fait. Donc c'est toute cette inspiration africaine qu'on essaie de reproduire dans notre musique, dans le rap notamment, vu qu'on est d'abord catégorisé comme des rappeurs. Mais j'aimerais dire qu'on est des musiciens parce qu'on fait un peu de tout. Et voilà, l'inspiration vient de l'Afrique. C'est un peu ça.
C'est culturel.
Mais justement, qu'est-ce que vous pensez du festival Tissimitis?
Personnellement, le festival Tissimitis, déjà en fait, moi je suis arrivé sur Nantes l'année dernière.
Dis merci d'abord de participer à Tissimitis.
Attends, je parle,
yes.
Je parle. Et du coup, je suis arrivé à Nantes l'année dernière et avant, quand j'habitais à Marseille, la ville de Marseille, elle faisait pas vraiment grand-chose pour les artistes émergents. Et toutes ces personnes qui veulent s'en sortir. Et quand je suis arrivé sur Nantes, du coup, j'ai vu que la ville, que ce soit avec le Hip Hop Session, le Festival Tissimitis, le Festival Spot, elle se donne. Et franchement, le Festival Tissimitis, pour moi, c'est une je pense, une de mes meilleures expériences jusqu'à depuis que je suis né. Et franchement, je dis un grand merci à toute la direction, à tout le monde, et à tous les gens qui sont venus, qui ont payé leur ticket pour venir nous voir. Et voilà, merci.
Et pour vous, ça fonctionne du coup aussi parce qu'on donne, on laisse la place à des artistes qui ont des choses à dire et qui viennent et qu'on n'entend pas ailleurs.
Ouais,
voilà, c'est un peu ça. C'est Tissé Métis, c'est une très belle opportunité qu'on a eue de pouvoir s'exprimer, d'avoir cette plateforme-là pour pouvoir passer notre message. Donc vraiment, on aimerait dire merci à Tissé Métis. Quel beau festival, franchement, il y a un peu de tout, il y a de la musique, il y a de l'art, il y a du cinéma. Franchement, c'est très intéressant, c'est très culturel, franchement, très intéressant.
Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez ajouter, peut-être un sujet que vous vouliez évoquer avec nous avant de se quitter?
On peut peut-être laisser une dernière phrase plutôt.
Peut-être.
C'est un message à tout le monde, à tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves. Il faut que personne ne puisse les décourager, il ne faut pas se laisser abattre. Il y a toujours des gens qui seront avec ou contre vous, mais malgré tout, il faut croire en ce que toi tu veux faire. Il ne faut pas écouter les autres, parce que quand tu vas réussir, les autres ils vont se rallier. Donc faut croire en ton cœur, ce que ton cœur te dit. Le cœur il parle. Et il faut ouvrir des portes.
Voilà, c'est un peu ça.
Très bien. Brahim, tu me sembles... Non,
j'ai une petite question. Est-ce que vous vous sentez emprisonné dans votre image de rappeur ou pas du tout? Enfin que les gens se concentrent plus sur votre travail de rappeur que de plus que ce que vous dites.
Pas compris la question.
Je dis, est-ce que vous êtes un rappeur? Est-ce que vous pensez que les gens se focalisent plus que vous êtes un rappeur que ce que vous dites sur le fond?
Que les gens se focalisent plus sur notre musique ou sur notre physique?
Plus sur le fait que vous soyez des rappeurs. Ça, là, par exemple, vous arrivez, les lunettes, la coupe, tout, la totale, quoi.
Après, moi, j'ai envie de dire quelque chose. C'est que, en tant qu'artiste, t'as forcément une image, qu'elle soit bonne ou mauvaise, t'as une image. Les gens qui te connaissent pas, s'ils connaissent ta musique, ils te connaissent toi en tant qu'artiste. Eh ben, ils vont te connaître toi en tant qu'artiste. Ils vont pas te connaître toi personnellement. Du coup... Ben forcément, écoute, c'est la vie, tu vois. Si les gens ils sont là, ils se focalisent sur ton image de rappeur ou ton image de danseur ou quoi que ce soit, ben c'est la vie. Écoute, c'est une vie qu'on choisit et c'est comme ça.
Tant que ça leur apporte quelque chose de positif, nous on est d'accord avec qu'ils aiment notre image ou le fond de nos chansons.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parler avec nous de ce que vous faisiez, de cette question de l'engagement, de ces questions de porter les idées. Je vous propose qu'on se retrouve. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve après une courte pause musicale où là, nous recevrons Gérard Noiriel, qui est spécialiste de mai 68 et qui mettra en perspective, qui fera le lien pour nous parler finalement de cette question de l'engagement. Merci à vous et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et à tout de suite, chers auditeurs.
Hey. 2050 stays focused at the game, bro.
Yeah. I don't know if it's in. I don't know if it's strange. I don't know if it's in. Now I don't know if it's in. Hey, check, see, go. 45, no. Truck is around in the mall.
On est de retour ici sur le plateau de Tissé Métis. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous rejoindre. Pour compléter cette interview d'ERA 44 que nous venons d'avoir, nous vous proposons d'écouter tout de suite cet échange que des membres de Nantes Jeunes ont eu la chance d'avoir avec Gérard Noiriel à l'instant à la sortie de sa conférence gesticulée sur les questions d'engagement et d'idées portées dans notre société. A tout de suite, chers auditeurs, pour se dire au revoir.
Gérard Noiriel, donc vous êtes connu pour vos questions interdisciplinaires et épistémologiques en histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Oh là, je crois que vous allez me parler des gilets jaunes parce que bon, je vois beaucoup de journalisme hein, en ce moment sur les gilets jaunes. Mais oui, là, c'est peut-être, pendant 5 minutes, ce ne serait pas possible de vous parler de ces questions compliquées, théoriques, même si c'est un des aspects importants de mon travail, oui, c'est vrai. Mais ça demande plus de temps pour développer, disons, que ce que j'ai mis en place, c'est de l'interdisciplinarité, voilà, entre l'histoire, la sociologie. La question aussi de la réflexion, bien sûr, l'utilité de l'histoire, la fonction civique de l'histoire, ce qu'on appelle. Voilà, ce sont des questions comme ça que j'ai. Les rapports entre histoire et mémoire, voilà, c'est ça que je pourrais résumer, si vous voulez, derrière ce grand mot d'épistémologie qui fait un peu peur, mais voilà, mais qui puisse, qui peut se traduire par des choses très concrètes.
Il y a une question qui est très présente, qui est celle des gilets jaunes. Et donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous pensez donc de la situation
en quelques mots,
en France en ce moment?
Oui, ben, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une histoire populaire de la France. J'ai publié au mois de septembre, dans lequel justement, qui retrace l'histoire de France, mais d'un point de vue populaire depuis Jeanne d'Arc jusqu'aujourd'hui, où justement je mettais en garde, c'était un peu prémonitoire, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, les élites aujourd'hui, de leur comportement, de leur ignorance, de leur mépris aussi parfois par rapport aux classes populaires. Et il se trouve que donc, le mouvement des Gilets jaunes a éclaté très, très récemment, en portant des revendications qui sont une traduction dans un langage populaire, justement, des choses que j'analyse dans mon livre. Donc ça, c'est un point important, parce qu'il y a de tout dans ce mouvement. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais ce que je montre dans mon livre, c'est justement qu'à toutes les époques, c'est comme ça. Il ne faut pas croire qu'il y a eu des mouvements populaires parfaits. Il y a toujours des contradictions. Et tout l'enjeu, c'est justement de faire évoluer le mouvement aussi dans le bon sens.
Qu'est-ce que vous pensez, en fait? Comment, pour vous, ça va se terminer au final? Toute cette activité autour des gilets jaunes. Et pour vous, en fait, concrètement dans l'avenir, qu'est-ce que pour vous il peut se passer, en fait? Qu'est-ce qui peut se produire?
Mais si vous voulez, dans l'histoire, il y a eu des luttes populaires bien plus importantes que celles des gilets jaunes. Hein, si on prend la Révolution française, si on prend la Révolution de 48, mai 68, 36, etc. Très souvent, les grandes luttes populaires se terminent mal. Pour les classes, ceux qui ont mené ces luttes. Hein. Mais il en reste toujours quelque chose. C'est ça qui est important. Donc c'est assez inédit comme mouvement, puisque ça prend des formes qui sont différentes de celles des précédents mouvements, puisque les gilets jaunes se veulent apolitiques, en dehors des syndicats, etc. Il ne peut pas y avoir de pérennité du mouvement s'il n'y a pas d'organisation, de structuration. Donc ça, c'est un gros enjeu. Qui va être choisi comme porte-parole pour aller à la place des autres? Comment le mouvement ça va s'organiser? Moi, je pense qu'il va y avoir, dans les semaines qui viennent, un affaiblissement du mouvement, mais que le mouvement ne disparaîtra pas pour autant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des formes de retour au mois de janvier, de réorganisation, parce que je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle époque liée aux réseaux sociaux, liée aux chaînes d'infos continues, etc., qui font que les mouvements sociaux prennent des formes inédites jusque-là et relativement spontanées, sporadiques, qui se renouvellent, etc. Donc c'est pas du tout, même si le mouvement s'affaiblit, ce ne sera pas la fin du processus, au contraire.
Et donc concrètement, pour vous, quel parallèle vous faites finalement entre le mouvement actuellement des Gilets jaunes et donc de mai 68?
Y a des points communs au sens où il y a une spontanéité du mouvement au départ que personne n'avait prévu que ça allait éclater. Donc il y a aussi dans les choses, les innovations, ce qui se passe dans le mouvement, etc. Mais il y a évidemment aussi beaucoup de différences. Il y a des différences liées au fait qu'en 68, c'était... En tout cas, dans les événements au sens strict, parce que si on prend sur une longue durée, il y avait des luttes ouvrières déjà avant, mais c'est les étudiants qui ont été le déclencheur. Les ouvriers les ont rejoints. Par la suite, là, c'est tout à fait différent, puisque c'est la fraction, disons, la moins misérable des classes populaires qui a l'initiative du mouvement. Donc ça fait à la fois les points communs, les différences. L'une des autres différences jusqu'à maintenant, c'est qu'en 68, les élections qui avaient eu lieu au mois de juin avaient donné une majorité à De Gaulle, c'est-à-dire contre les manifestants. Alors que là, jusqu'aujourd'hui, il y a quand même l'opinion publique qui est en majorité favorable. C'est pour ça que le président de la République n'envisage pas de dissoudre l'Assemblée nationale comme De Gaulle l'avait fait.
Justement, en fait, je voulais évoquer avec vous, donc au final, la réaction du gouvernement par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Comment est-ce que vous qualifieriez en fait la réaction de Macron par rapport à ça? Le fait qu'il ait par exemple augmenté le SMIC, est-ce que pour vous c'est une véritable solution? Donc un journaliste disait par exemple, a fait la une des journaux en disant, en montrant une photo de Macron qui disait oui, tenez les gueux, voici 100 euros. Est-ce que vous partagez ce point de vue très critique au final par rapport à sa réaction ou pas du tout?
Si vous voulez, moi j'avais fait une analyse du programme présidentiel de Macron, donc dans la conclusion de mon livre. La conclusion, c'est de quel avenir Macron est-il le nom? Et à ce moment-là, quand j'ai montré que dans son programme et dans l'histoire, la vision de l'histoire qu'il a, les classes populaires étaient complètement absentes, et qu'il y avait une forme de mépris déjà dans... Personne ne parlait de ça. Donc aujourd'hui, je veux bien que tout le monde s'attaque à Macron, mais quand même, il n'y a pas que lui. Hein, c'est un problème global des élites. Et donc c'est trop facile de focaliser sur un homme, un président. Bon. Donc je pense qu'effectivement, Macron, il est représentatif de la classe qui est au pouvoir aujourd'hui. Les CSP+, si vous voulez, pour simplifier. Donc il y a une prise de conscience, je pense, on peut dire sincère de sa part, je n'ai pas de raison de suspecter, que le programme économique qu'il a choisi, qui est un programme très libéral, le coince parce qu'il veut donner des gages à l'Europe, les 3%, etc., de déficit. Donc il a une marge de manœuvre extrêmement réduite. Il ne veut pas rétablir l'impôt sur la fortune. Bon, enfin. Donc je pense qu'effectivement, les mesures qu'il a prises, elles sont au fond très limitées, puisqu'on sait que même l'augmentation du SMIC, c'est des choses qui étaient prévues, donc il a avancé. Bon, donc la prime, ce n'est pas lui qui la donne, c'est les entreprises. Donc évidemment, par rapport aux exigences des Gilets jaunes, ça paraît très très limité.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions et accordé cette dizaine de minutes de votre temps.
Nous sommes de retour ici sur le plateau de Tissé Métis ce soir, Nantes Jeune avec JetFM. C'est un moment déchirant pour nous tous puisque c'est le moment des adieux, celui de se dire au revoir, chers auditeurs, celui de dire au revoir à ce festival magnifique qui nous accueille pour la 4e année, celui de s'entre-déchirer avant d'aller déguster un délicieux repas, certes, mais celui de se déchirer tout de même, sentimentalement. Peut-être l'occasion aussi de poser une question à l'équipe qui est réunie ce soir autour du plateau et dont je pense qu'il faut citer tous les noms. Diane, Brahim, Alice, Cédric, Jules, Sarah, Elisa, qui étaient là également à l'instant, qui ont été avec nous toute la journée, qui ont préparé ces plateaux. Je n'oublierai bien évidemment pas Gustave à la technique, qui est notre régisseur favori, en tout cas pour aujourd'hui. Également Julie de JetFM qui nous a accompagnés toute la journée, c'est que toute l'organisation de ce festival, Cyril Prévost tout particulièrement, le directeur adjoint, qui nous a accordé sa confiance dès le début de l'année, qui nous a accompagnés et qui nous a permis de réaliser ces ateliers et de préparer les émissions d'aujourd'hui. Peut-être poser cette question à l'équipe aujourd'hui avant de se dire au revoir. Qu'est-ce que vous retenez de Tissé Métis? Comment ça s'est passé pour vous?
Je pense que le festival Tissé Métis, c'était quelque chose quand même d'assez poignant d'un point de vue purement humain. C'était une expérience vraiment hyper intéressante et enrichissante, surtout qu'on a eu 4 plateaux différents qui vraiment ont apporté quelque chose, je pense, et qui nous ont fait ouvrir les yeux sur plusieurs systèmes de la société.
Moi, je suis d'accord avec Diane, c'était un super événement. Et bah, moi, j'invite tous les Nantais et toutes les personnes de France à venir au prochain festival. C'est un super festival, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, au revoir.
Je trouve ça super intéressant, tout simplement par le partage qu'on a pu vivre en ce jour, et remercier tout simplement toute l'équipe d'être venue aujourd'hui.
Alors, j'ai été très content de participer à cette émission spéciale hein, à Tissé Métis. Je suis très content d'être ici au festival. Et je remercie aussi les auditeurs qui écoutent nos émissions et qui continuent à nous écouter, franchement. Il y avait des moments forts dans cette émission. Je remercie aussi toute l'équipe de Nantes Jeune qui... On a travaillé en collaboration. Voilà, il y a la collaboration était très forte et je remercie toute l'équipe.
Moi, j'ai passé une super journée en ce festival. Tout d'abord, je tiens à souligner la mixité des gens qui est ici. C'est quelque chose de formidable qu'on puisse réunir autant de personnes différentes en un même lieu. Moi, je trouve ça vraiment formidable et c'était une très très bonne journée avec toute l'équipe présente ici.
Alors oui, moi, je tiens à remercier grandement Nantes Jeune qui m'a accueilli pour la première fois sur ce plateau. C'était vraiment une expérience géniale. Des rencontres radiophoniques comme celle-ci, on a envie d'en faire tout le temps. Il y a eu du débat avec nos invités, on a appris plein de choses, on a rencontré des artistes merveilleux. C'est un festival qui porte des valeurs qui sont juste extraordinaires. Moi, pour vous dire vraiment, quand je me baladais dans le festival, j'en étais émue, tant les gens sont heureux, tant tout le monde est rassemblé autour de questions qui sont importantes. Et le festival ne fait que commencer, même si Nantes Jeune termine. on a encore jusqu'à 1h du matin à faire la fête. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, je pense. Merci encore à toute l'équipe, en tout cas de Tissé Métis et de Nantes Jeunes.
Très bien. Merci à vous tous d'avoir participé tout au long de cette année. Merci encore à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Et nous vous disons à très bientôt sur Nantes Jeunes, sur JTFM et à Tissé Métis.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.